Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
À quoi ressemblerait un monde complètement ubérisé ? Est-ce que, comme dans la série Black Mirror, chaque personne aurait une note sans cesse réévaluée au fil de la journée ? Un monde où chaque micro-interaction serait notée, la façon dont vous souriez ou pas à votre boulanger, la manière dont vous vous comportez avec vos enfants, votre travail évidemment, votre comportement avec votre chauffeur Uber, ça va de soi, votre tenue qui pourrait être notée par vos voisins dans le métro, jugée cool ou ringarde. Comme dans cette fiction, vous pourriez accéder ou pas à certains avantages selon votre note. Obtenir un prêt, par exemple, si vous avez plus que 4,1. Déjà en Chine, ce n'est plus de l'anticipation. Depuis 2014, il existe un système global de notation des citoyens chinois qui permet au gouvernement de récompenser les bons et de pénaliser les mauvais citoyens. Aux mauvais, par exemple, ceux qui ont commis des petites fraudes, comme fumer dans les lieux interdits, pas payer leurs amendes ou leurs cotisations sociales, on empêche de prendre l'avion ou le train en bloquant la vente des billets. Plus de 11,4 millions de billets d'avion et 3 millions de billets de train ont été refusés à ce titre en 2018, racontent les Échos. Chez nous, c'est vrai qu'on note déjà les chauffeurs Uber, qui eux-mêmes attribuent une note aux clients. En dessous de 4,4 sur 5, le chauffeur devra d'ailleurs participer à un stage, une sorte de formation de redressement pour chauffeurs déviants. Il aura ensuite 9 jours, enfin celui qui a raconté ça à Libération le dit, pour retrouver une moyenne acceptable et sinon il prendra la porte. Sa mise à pied lui sera signifiée évidemment par SMS. Le monde déjà ubérisé, c'est donc tout de suite, aujourd'hui, mais dans les pieds sur terre, il y a aussi des gens qui s'en accommodent et qui y trouvent de belles histoires. Ma vie en Uber, deux histoires et une manif, par Alice Babin.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Saladin, j'ai 32 ans. Je suis chauffeur VTC. Ça va faire un peu plus de 2 ans et demi. Avant ça, je suis gérant, j'ai une petite boulangerie, enfin un fournil. Et avec le temps, bah, tout va bien pour moi au niveau de la boulangerie, donc j'ai plus forcément besoin d'être là, j'ai 2 employés. Et je trouvais qu'Uber, c'était le bon compromis pour jongler entre les deux. Ce qu'il y a de bien dans ce métier, c'est les rencontres qu'on fait. On rencontre tout le temps des nouvelles personnes. C'était une très mauvaise journée dans le sens où c'était très très calme. Ça sonnait pas du tout. Ça faisait quoi ? Ça faisait peut-être 5 heures que j'étais en train de bosser. J'avais pas fait le chiffre que j'espérais faire. Bon, ça arrive, hein. Les journées se ressemblent jamais dans ce métier-là. Et j'allais tout simplement rentrer chez moi. J'étais au niveau de la porte de Clichy. Je reçois une course et j'ai longtemps hésité avant de la prendre. Arrivé au moment où ça a fallu passer à un autre chauffeur, je l'ai prise, je sais même pas pourquoi. Et du coup, je vais chercher la cliente, parce que c'était une cliente. Donc j'arrive en bas, elle met du temps, elle descend, et en fait, j'ai flashé. Pour moi, c'était le coup de foudre, en fait. Ce qui m'a rendu fou chez celle, c'est son visage. Ses yeux, sa bouche, son sourire, ses mimiques. Quand je l'ai vu, c'était mon rayon de soleil de la journée. Et donc elle monte, je suis là, tout sourire, je prends sa valise, je la mets dans le coffre, j'ouvre la porte, elle rentre. Je démarre la course, je vois qu'elle va à l'aéroport d'Orly. De base, moi, je suis très timide, donc j'aborde pas forcément les personnes. Qu'est-ce qui a fait qu'on a commencé à parler ? C'est qu'en fait, j'avais laissé les fenêtres ouvertes, parce qu'entre deux cours, je laisse tout le temps ouvertes pour aérer. Et au moment où on rentre dans le périph', moi, j'allais fermer les fenêtres et elle me dit « Excusez-moi, vous pouvez fermer la fenêtre ?» Et moi, à ce moment-là, je la ferme. Et ça rigole. Je dis « Ouais, j'allais le faire. » Elle me dit « Ah ouais, j'ai tac. » Donc après, direct, ça a détendu l'atmosphère. Et du coup, c'est la petite étincelle qui a lancé la discussion. Je dis « Voilà, vous allez en vacances ?» Elle me dit « Non, je vais à un mariage à ma cousine. » Je dis « Vous allez où ?» Sans indiscrétion, elle me dit « Je vais au Maroc. » Je dis « Ah, cool. » Et moi, dans la discussion, je lui dis « Vous êtes marié ?» Elle me dit « Non, je suis célibataire. » Jusque-là, normal. aucune arrière-pensée, rien du tout. C'était vraiment dans le sujet de discussion, comme on parlait de mariage. Je dis, bah, vous attendez quoi pour vous marier? Elle me dit, j'attends de trouver la bonne personne. On part, nanani, nanana. On arrive à l'aéroport. Avant, les clients, on pouvait les déposer au dépose minute. Bon, maintenant, il y a des règles, il faut les déposer au parking pro. C'est là où il y a tous les chauffeurs VTC. Donc, je la dépose là, elle n'avait pas l'habitude, donc elle ne connaissait pas. Je l'accompagnais jusqu'à une porte. Et moi, je la voyais, son sourire et ses yeux, ils me rendaient fou. Mais le feeling, il est tellement bien passé que moi, j'ai dérogé à la règle. Dans le sens où, en fait, je lui ai proposé de prendre mon numéro à son retour si elle voulait refaire appel à mes services. Je lui dis, je lui ferai au même prix que la course qu'elle a payée. Mais c'était purement professionnel. Elle me dit d'accord à prendre le numéro. Je lui souhaite bon week-end et bon mariage. Elle me dit pareil, à lundi. Elle me dit qu'elle revient lundi. Moi, dans ma tête, je me suis dit, voilà, j'ai donné le numéro, mais je m'attendais pas forcément à ce qu'elle m'appelle. Le week-end, il passe. Et moi, tout le week-end, j'avais son visage dans la tête. Sa beauté, elle m'a rendu fou. Elle a des yeux verts. Elle se maquille pas. Elle est vraiment 100% naturelle. Elle parle, elle a une voix douce. Elle est posée dans sa tête. Elle a un sourire, c'est... Laisse tomber son smiley. Perso, elle m'a piqué. Bon, le week-end, il passe. On arrive à lundi. Et malgré que dans ma tête, je me suis dit, elle va pas me rappeler. En fait, j'ai fait exprès de pas travailler. Pour être sûr que quand elle m'appelle, je sois à côté de l'aéroport. Au fond de moi, j'espérais, je voulais qu'elle m'appelle. Le temps, il passe. Parce que moi, je savais pas à quelle heure elle allait revenir. On s'était pas dit ça. J'étais vers chez moi avec mes potes. Mais j'étais là sans être là. Et je vois le temps, il passe. 17h, 17h30. Là, je dis, ah, ça y est. Je dis, je la reverrai plus. J'aurais dû lui proposer qu'on puisse se voir. Même si il n'y avait rien de... Et là, 17h30, paf, je reçois un coup de fil. Ça arrive à un moment où je me suis dit, c'est bon, je la reverrai plus. J'étais comme un gosse. Franchement, quand j'ai reçu le coup de fil... Je voyais pas, et quand j'ai entendu sa voix, j'étais... On dirait un enfant qui ouvre son cadeau de Noël. J'étais là, oui, alors. Elle me dit, oui, bonjour, c'est la cliente de la dernière fois. Elle me dit, là, je viens de sortir de l'aéroport, je suis arrivé. J'ai bombardé, j'étais tout heureux. Elle est là, bonjour, tac, je la prends en charge. Je dis, alors, ça s'est bien passé. Au début, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au début, je parle bien avec elle. Je me dis, ouais, c'était bien, beau mariage. Et pour la taquiner, je dis, alors, vous avez trouvé quelqu'un là-bas? Elle me dit, non, et tout. Je voulais vraiment apprendre à la connaître ou... Et moi, je sais pas m'y prendre. Et de là, une fois qu'on a fini de dire ça, plus un mot. Je savais plus quoi dire. J'étais en panique, la peur de dire un mot qu'il faut pas. J'étais tétanisé. Elle me dit, ça va. J'ai menti carrément. J'ai une grosse journée. Alors que j'ai même pas bossé de la journée. Elle me dit, j'avoue, je comprends, ça doit être dur. Et voilà, je parlais plus. Et dans ma tête, je me disais, mais... Dis un truc, parle, mais j'avais peur de dire une connerie. Je devais se dire, ça se trouve, il y a quelque chose. Ou... Même à la fin, je me suis excusé, je me rappelle. Je dis, excuse-moi, si j'ai pas parlé, j'étais pas comme la dernière fois, je suis vraiment fatigué. Elle me dit, ok. Quand la porte s'est fermée de son hall d'immeuble, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je devenais fou, dans le sens où je me suis dit, là, je suis en train de... Je sais pas, c'est ma conscience, ça me disait, t'es en train de louper quelque chose. Et je suis là, je suis dans la voiture, je reste au moins 5 minutes comme ça. Et là, en fait, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait, j'ai envoyé un roman. Je dis, ouais, excuse-moi de te déranger, c'est le chauffeur qui t'a déposé. T'as dû voir que j'étais super calme, mais je vais pas te mentir, j'espère que tu vas pas mal le prendre. Je t'ai apprécié, j'ai aimé nos discussions. Tu m'as l'air de quelqu'un de bien et j'aimerais apprendre à te connaître et si c'était possible de... qu'on puisse se revoir, mais genre pour boire un verre ou pour manger quelque chose. Et j'envoie le message. J'ai fait un truc que jamais de ma vie j'ai fait. J'arrive vers chez moi, mais je roule mon moment pendant au moins 30 minutes, toujours pas de réponse. Je me dis, ah ça y est, c'est mort. Et paf, d'un seul coup, je reçois un message. Elle me dit, ouais, j'ai vu que t'étais calme, genre en mode lol. Elle me dit, en temps normal, quelqu'un que je connais pas, ou j'aurais pas accepté, mais elle me dit, je sais pas, avec toi, le feeling, il est bien passé, on a bien parlé. Tu m'as l'air quelqu'un de bien et tout. Et elle m'a dit un truc comme ouais, pourquoi pas. Et moi, quand elle m'a dit ça, j'étais aux anges. Ça devait être, ouais, c'était lundi. Je dis, bah, si ça te dit, samedi, on va manger quelque chose. Elle me dit, ok, très bien. Et tous les soirs, on s'envoyait des messages. tu fais quoi dans la vie, nanana. Elle m'a raconté ses histoires, on parlait de nos vies, de voilà, ceci, cela. Ça veut dire que on commence à apprendre à se connaître, même s'il faut du temps pour vraiment connaître une personne. Jusqu'à le fameux soir, on s'est vus. Et c'était la meilleure soirée de ma vie. On est parti manger au resto. Après, on est parti vers Sacré-Cœur. On a marché. On parlait. Je pourrais même pas dire de quoi on parlait. Ça m'était jamais arrivé. C'est que le temps, on l'a même pas vu passer. On s'est retrouvé à Notre-Dame. Je me rappelle, on marchait à Notre-Dame. Il y avait une exposition en pleine rue. Là. Un mec, il avait fait une statue bizarre. Le mec, il prenait ça en photo. On est rentré, je crois, il était 4h du matin. Et après, je l'ai déposé. Elle m'a proposé de monter boire un café. On a parlé. Et je crois que c'est là qu'on s'est embrassé la première fois. Je suis rentré chez moi. On s'est revu le lendemain, je crois. Et jusqu'à maintenant, on est toujours ensemble. Hein. Ça va faire bientôt un an. Après, on a eu des petites épreuves. J'avais des doutes, la peur qu'elle me blague. Pareil pour elle aussi, mais voilà, les épreuves ont fait que, en fait, non. On a le projet de se marier, on en parle sérieusement. Après, on s'accorde du temps pour être sûr de pas faire le mauvais choix. Jamais j'aurais pensé la rencontrer en étant VTC. Comme elle aussi, je pense jamais elle aurait pensé me rencontrer en tant que cliente. J'ai fait ma plus belle rencontre en étant chauffeur. C'est le dessin qui a fait notre rencontre, en fait.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Malik, je suis Hubert, j'ai 28 ans. Ça fait un an que je fais ce travail. Je suis rappeur aussi, je fais les deux en même temps. Et ça me permet de vivre. Avant, j'étais fonctionnaire 10 ans. Et j'ai arrêté parce que ça me permettait pas d'être assez libre et que je trouvais que c'était pas, pour le temps que ça prenait, l'énergie que ça prenait, c'était pas assez. Je me suis retrouvé 4-5 mois au chômage. Et voilà, il y avait Uber, les gens en parlaient beaucoup et j'avais mon permis. Donc voilà, je me suis tourné vers ce taf-là parce que c'était le plus simple et qu'ils embauchaient dans une période où c'était difficile de trouver du taf. Je fais en fonction de mes besoins. C'est pour ça que j'ai choisi Uber, parce que ça me permet de faire ce que j'ai envie à côté et pouvoir des semaines où me prendre du repos, partir, ou justement carburer, faire beaucoup plus d'heures. Bon, sachant qu'on est quand même limité à la journée. Des fois, je vais commencer à 16h, je vais terminer à 2-3 heures du matin. Des fois, je vais me lever tôt, je vais me lever à 8 heures du matin, je vais bosser jusqu'à 16h. Et puis aussi, après, il y a les rendez-vous, il y a les trucs personnels de la vie. Par exemple, je dois aller voir quelqu'un à l'hôpital, je m'arrête 4-5 heures. J'ai pas de journée à poser, j'ai pas de congé à poser. Et donc voilà, ça me permet de gérer ma passion, de m'arrêter, d'aller 4-5 heures au studio, de faire un son, de m'arrêter dans un café, discuter une heure ou deux avec un caméraman pour parler d'un clip et voilà. Cette voiture, je l'ai eue à 250 000 km. C'était pour pas la payer cher. Et maintenant, elle est à 310 000 km. C'est ma petite chérie, elle ne meurt pas. Elle ne veut pas décéder. Elle va tenir la route. Jusqu'à ce qu'elle expire son délai de validité au registre des transports, elle va tenir la route. Après, voilà, je me dis que j'ai quand même fait 60 km avec, à écrire. On a fait un bout de chemin ensemble. Même dans l'écriture, j'ai fait un petit bout de chemin. À la base, j'étais ce qu'on appelle un improvisateur. À l'âge de 14-15 ans, donc on commençait, on restait assis avec les potes, on faisait des rimes en rigolant, en imitant les rappeurs connus. Et donc on s'inspirait beaucoup, on écoutait ces trucs toute la journée. Au début, on rappait juste les faces des autres. Et là, les gens trouvaient que j'avais un petit truc. Alors moi, je m'en fichais, c'était un délire. Et après, j'ai commencé à faire de l'impro, j'ai fait des petites scènes où c'est des petits concours d'impro, j'en ai gagné quelques-uns. Vers 22-23 ans, je me suis mis à écrire. Mais sinon, là justement, j'essaye de quitter ce côté un peu rap street, toucher un truc plus professionnel. Et du coup, Uber me permet d'avoir le temps de faire ces choses-là, de contacter des gens, parce que c'est surtout un cercle de contact, il faut avoir un réseau, c'est compliqué. Ce que je fais, je réserve dans des studios, Par exemple, j'ai rendez-vous à un studio à 15h. Je vais sortir de chez moi à 10h du matin. Je vais bosser 4h. Je vais garer ma voiture. En même temps, en voiture, je vais réécouter un peu ce que j'avais fait. Je vais peaufiner le truc en roulant. Parce qu'avec le téléphone, tu as une connexion Bluetooth au véhicule. Donc souvent, ce que je fais, c'est que dans l'attente d'un client, je balance le beat. C'est les instruments qui sont derrière la voix d'un rappeur. Parce que je travaille avec des beatmakers pareils, indépendants, qui m'envoient ça par Facebook. L'instrumental, je la mets vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ma voix, il n'y a rien. Puisque de toute façon, je n'ai pas encore écrit dessus, donc je la mets. Et je l'écoute en boucle, en allant chercher les gens, entre chaque client. Et le fait de l'écouter m'inspire une mélodie, une rythmique à prendre sur ce truc-là. Donc au début, je suis en voiture et je fais des yaourts. Donc par exemple, je fais na 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 na. Et à la fin, ça m'inspire quelque chose. Du coup, là, je tiens la mélodie. Alors ensuite, je fais quoi? Je roule et dès que, pendant que je fais la mélodie, j'ai une idée de parole, je serre à gauche ou à droite, je me mets en warning 2 secondes, je vais dans mes notes de téléphone, j'appuie sur le micro et je dicte la chose. Et donc, l'avantage des téléphones d'aujourd'hui, c'est que ça écrit le truc. Des fois, ça se trompe. Ça remplace un mot par un mot qui n'a aucun sens. Mais je sais plus ou moins ce qui était la phase pour pas l'oublier. Et donc, là commence le travail d'écriture. J'envoie comme des premiers jets qui sont enregistrés et écrits sur mes notes. Et lorsque j'arrive chez moi, je peaufine ces premiers jets. Après, tranquille, voilà, chez moi, je faisais la même chose au travail quand j'étais dans l'animation. Sauf que je le faisais, par exemple, quand les petits faisaient leur étude, chacun allait faire leur devoir et ils venaient me voir que pour me poser des questions. Donc, entre le moment où ils faisaient leur devoir, bah, j'écrivais. Bah, j'avais pas l'instru dans la tête, mais j'écrivais des textes. Et c'est un truc que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que quand il y a un trou ou un moment de flottement dans le travail, je l'utilise pour quelque chose, en l'occurrence pour le rap. Donc, je balance le beat, je répète ce que je vais aller faire au studio, boum, une course sonne, je m'arrête, je prends le client, je passe sur TSF Jazz pour pas choquer les clients. Je dépose le client, boum, je rebalance l'instru, je peaufine des trucs, je trouve des trucs. Et quand c'est l'heure, je gare ma voiture, je pars faire mes heures de studio et je ressors, je repars travailler. Et du coup, l'avantage que j'ai, c'est qu'après ce que j'ai fait au studio, eh ben, je peux aussi me l'écouter dans la voiture. C'est connu par les professionnels de la musique que le meilleur moyen d'écouter le mix, c'est les ajustements après un son. C'est-à-dire que lorsque vous faites un son, ben, vous avez des voix trop hautes, des mélodies, des effets, des trucs, des instruments qu'il faut diminuer. Et le meilleur révélateur de la qualité d'un mix, c'est une voiture. On ne peut pas avoir une inspiration plus rue qu'en arpentant les rues de Paris un vendredi soir ou samedi soir. La voiture, c'est le meilleur moyen parce qu'on est à Paris. Le rap, c'est quelque chose de street. C'est quelque chose de rue. Il n'y a pas besoin d'aller dans la rubrique fait divers. Vous prenez une voiture, vous tournez en Uber toute la nuit dans Paris et vous allez voir des faits divers. Des bagarres, des machins. Après, c'est pas forcément que parler de ça ou en parler le glorifier, mais simplement, des fois, des détails donnent une inspiration. Je suis quelqu'un qui écrit de manière très imagée. Voir des images en roulant, c'est en cohérence avec ma façon d'écrire. Ça m'offre une simplicité et une inspiration en plus. Il y a des clients qui m'ont déjà inspiré des morceaux, mais je pense pas que ce soit de leur plein gré. Il y a des fois des gens qui font des réflexions, qui disent des choses. Des fois, ils s'en rendent pas compte. Des fois, ils font des blagues. Enfin, ce qu'ils pensent être des blagues. Et il y a des gens qui te donnent la foi, tu vois. Tu tombes sur des gens. Et s'il y a bien un truc que t'apprends au Uber, c'est que les apparences sont trompeuses, mais vraiment. Et voilà, il y a des gens, des fois, ils vont venir, ils vont vous raconter leur histoire personnelle. Des fois, il y a des gens avec qui on fait le psy. Et des fois, ils vous inspirent parce qu'ils vous parlent de trucs qu'ils ont fait ou de comment ils se sont... Il y en a aussi qui vont vous raconter comment ils se sont retrouvés dans la galère, au fond et tout, alors qu'ils avaient telle ou telle chose. Et d'autres qui vont vous dire qu'ils étaient dans la galère et qu'aujourd'hui, ils ont telle ou telle chose. Je fais simplement des constats de ce qui m'entoure, de ce que je vois. Mais je le vois vraiment. Et parce qu'il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui vont vous dire les trafics, des kilos de drogue, il a jamais vu de drogue. Moi, si je le dis, c'est que je l'ai vu. C'est réel. Le rap, c'est pas toujours des histoires de galère. Si ça serait ça, on se serait tous suicidés. Bien que moi, je suis un rappeur assez sombre dans mon écriture, mais je pense que ça serait mentir. La vie, c'est pas que des galères. Bien sûr, pour 90% des gens, dans la conjoncture actuelle de la société, oui, il y a beaucoup plus de galères que de moments joyeux. Mais après, résumer la vie à que des galères, vous voyez, la dame là-bas, elle est avec son bébé, je pense pas qu'elle soit malheureuse, elle a son enfant, elle est contente. Il y a des moments de joie. Et il faut aussi écrire sur ces choses-là. Mais après, il faut en avoir l'inspiration. C'est plus facile de faire semblant d'être triste quand on écrit que de faire semblant d'être heureux.
Et t'as écrit quoi ce matin, par exemple ?
Donc, ce matin, j'ai écrit quoi ? J'ai écrit... Ok, je cogite sur le temps qui passe. Du coup, j'en perds. J'écris au singulier avec une mine antipersonnelle. Maudit comme celui qui frappe à son père. Mon environnement m'a façonné, fasciné. Je suis pas millionnaire, papa a été que fonctionnaire. Dégoûté de BFM, des bobos réactionnaires bloqués au sous-sol, ascenseur en panne, en espérant qu'un miracle va l'actionner. Chaque couche de la société est bien fractionnée. Je vois les mêmes choses chaque semaine. Les petites sont minabiles, amis fémines, soldats invalides, t'es passé sur une mine. Barbu, t'auras du taf quand t'accepteras de te raser. Et le SDF n'aura plus froid quand le monde aura fini de s'embraser.
Michel.
Mustapha.
Merci.
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cette manifestation de chauffeurs VTC ?
Parce qu'on en a ras-le-bol, on travaille 7 jours sur 7, minimum 12 heures par jour, pour qu'à la fin du mois, on n'a même pas 50 euros pour vivre. On travaille pour payer tous nos crédits, tous nos frais et tout. Et on est obligé, pour pouvoir se, entre guillemets, dégager un petit salaire, de ne pas tout déclarer. Et on est exploité
H24. Parce que 280 heures pour toucher 997 euros, c'est en dessous du SMIC.
J'ai eu un client récemment qui me dit « Mais vous savez que votre course, je la paye moins cher qu'un cocktail à Saint-Michel ou dans Paris ?» Vous vous rendez compte, 4 euros avec des berlines, on a des Mercedes, on a des Jaguars, on a des Renault Talisman, des derniers véhicules, derniers cris, des classes E, tout pour 4 euros.
Aujourd'hui, les chauffeurs tournent en moyenne à 20 euros l'heure en TTC. Il faut déduire le gasoil, la voiture, il faut l'amortir. Qu'est-ce qu'on va déclarer ? Qu'est-ce qu'on va se verser ? En réalité, les chauffeurs se retrouvent à se verser 3 euros l'heure. C'est vous imaginez, 3 euros l'heure, il faut faire combien d'heures pour pouvoir se verser un salaire convenable ?
On craque.
On a cru dans cette profession, c'est un beau métier, on est là pour le défendre, parce que c'est un métier avec lequel on pourrait vivre. On se disait qu'on pourrait vivre, mais aujourd'hui, la réalité, elle est différente de ce qu'on nous a fait vendre. Alors, j'ai pris un crédit pour ma voiture, mais aujourd'hui, déjà, si j'arrive à payer ma location, payer le gasoil, l'assurance, etc., bah, il ne me reste plus rien. Si ça continue comme ça, je vais arrêter et chercher ailleurs.
En dehors de ça, bah, faut bien qu'on mange le midi, faut bien qu'on mange le soir. Les clients, bah, ils ont été habitués comme des rois, des princes, des bonbons, de l'eau, des chargeurs. Il faut savoir que c'est pas Uber qui fournit. C'est les chauffeurs.
Sans compter les réparations. Parce
sans compter les réparations. À force de travailler bah, 12 heures par jour, et bon, on fait des accidents, on perd du chiffre.
Ça vous est arrivé ?
Bien sûr, ça m'est arrivé 5 fois en 2 mois.
Donc c'est qui le patron dans tout ça ? Je regrette 10 000 fois, 20 000 fois d'avoir continué dans ce secteur-là. Donc voilà, je travaille pour être à découvert. Et j'ai pris aucune vacance depuis que Uber, toutes les applications ont débarqué. Ils ont cassé les prix. Ça fait 2 ans et demi que je suis là-dedans. Si je prends un jour de repos, je suis obligé derrière d'enchaîner 15 heures d'affilée pour pouvoir couvrir le jour de repos. J'ai un appartement à payer, j'ai un loyer à payer, j'ai des charges et tout. Je tombe malade, je suis fini.
My heart is on fire, my strength in vain. I'm no more inspired to live pain again. I feel waves of tears crashing over my chest. Breathless, I fall to the ground.
I'm down.
No, I do, cause reality cut me like a
C'était Ma vie de chauffeur Uber, une émission diffusée pour la première fois en septembre 2018. signée Alice Babin avec une archive de Martine Abbat. Elle était réalisée par Anne-Laure Chanel avec un coup de main de François Connac. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Mélissa Foust. La Séparation, c'est notre nouveau podcast disponible désormais sur toutes les plateformes franceculture.fr et l'appli Radio France. 25 ans de la vie d'un couple mythique enregistré au fil des années par Sophie Simoneau. Je vous le recommande chaudement. Par ailleurs, sachez, chers auditeurs et auditrices, podcasteurs et podcastrices, qu'à partir de lundi, le 21 septembre, c'est Delphine Saltel, productrice bien connue de France Culture, qui présentera et coordonnera Les Pieds sur Terre pendant plusieurs semaines. Elle fera ça bien mieux que moi, ce qui n'empêche que je serai tout de même de retour ensuite pour de nouvelles aventures. Merci à elle, donc, et bienvenue. Et surtout, n'oubliez pas d'écouter La Séparation et de laisser des commentaires et des petites étoiles.
Over my chest, breathless, I fall to the ground.
I'm down.
Now what do? 'Cause reality cut me like a knife. Struggle again the length of the time.
I'm down.
Now I do it 'cause reality cut me like a knife. But now I do.
I'm down.
Now I do 'cause reality cut me like a knife. Stepping on.